7 milliards de voisins. C'est la radio mondiale.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, le surendettement des ménages. Alors, on dit toujours surendettement des ménages, mais bien sûr, on peut être surendetté en étant célibataire. Paul Jorion, anthropologue, sociologue, est notre invité. Il est non pas dans le studio de RFI, mais dans le studio de France Bleu Armorique à Vannes. Annick Bidan, de l'association Crésus, qui vient en aide aux familles surendettées et qui est un ex-cadre de la Banque de France. Et quant à vous, bien sûr, vous pouvez participer à l'émission, témoigner où que vous soyez dans le monde. Au 33 1 56 40 21 71. Mais tout de suite, reportage à Conakry, en Guinée, où bon nombre de Guinéens sont endettés. Alors, non pas auprès des banques, mais auprès de commerçants à qui ils achètent à crédit chaque début de mois, en attendant l'arrivée de leur paye pour éponger leurs dettes. Qu'il s'agisse de denrées alimentaires d'ailleurs ou de produits d'hygiène et d'entretien. Amélie Niard a rencontré deux épiciers du marché Niger de Conakry qui nous expliquent comment fonctionnent ces crédits.
Oui.
Salade en boîte.
Oui, salade en boîte. Oui, il y a la crème, il n'y a pas la salade. Non. Quand tu as besoin de produits entretien, on peut donner des crédits. Quand tu as besoin des alimentations en général, ce que tu as besoin, tu demandes, on peut te les passer sans problème. Avant de donner les dettes à quelqu'un, il faut d'abord de voir son caractère, son éducation, tout ça là. S'il a un bon comportement, il faut que des gens qui sont sûrs, qui ont habitué de venir, ça fait des années qu'ils viennent, pour les jours qu'ils n'ont pas les moyens pour accepter, donc on peut le faire en faveur, de leur donner des crédits jusqu'à des fois un mois, des fois deux semaines, des fois trois semaines, pour qu'ils puissent soulager sa famille.
Et vous arrivez toujours à récupérer l'argent qu'on vous doit?
Oui, non, des fois on a des difficultés pour ça, oui. Il y a certaines personnes aussi qui viennent, bon, quand tu le vois en visage, tu vas dire que c'est une grande personnalité, qui est bien cravaté. Des gens comme ça, on dira qu'il est honnête, mais quand il donne, il ne va plus revenir.
Mais malgré tout, vous continuez d'accepter de vendre à certains clients à crédit?
Oui, oui, on est là parce qu'on a confiance à certaines personnes.
Malaykoum salam. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas vendre sans crédit?
Quand il y a des clients réguliers, ils attendent peut-être, quand ils seront payés à la fin du mois, ils viennent payer aussi. Ils ne peuvent pas payer cash, bien sûr.
Est-ce que vous avez une idée de la somme que vous attendez de récupérer auprès des clients?
Là, sauf si nous regardons, par exemple, à la fin de l'année, au mois de décembre, quand on a fait les inventaires, il y en avait pas mal, environ 3 à 4 millions de francs guinéens.
Ça veut dire 300 à 400 euros?
Oui, environ 300 à 400 euros.
Et vous les avez récupérés?
Il y a d'autres qui sont venus quand même. Oui, on a récupéré certains, mais il y a d'autres jusqu'ici qui ne sont pas venus. Environ 1 million comme ça, 1 million 200 qui ne sont pas encore récupérés.
100 à 120 euros que vous devez encore récupérer?
Oui, on attend encore à la fin de l'année pour faire les inventaires, voir peut-être ça trouverait qu'ils sont venus ou pas.
Mais quand un client a déjà des dettes, est-ce qu'il peut à nouveau acheter à crédit?
Parfois on refuse, hein, parce que nous, dans le règle de nos commerces, on dit qu'on ne peut pas doubler les crédits. Quand tu as un ancien crédit, il faut payer l'ancien pour renouveler. Même si ça dure, il n'y a pas de problème, mais il faut payer pour reprendre un nouveau crédit. C'est tout comme ça, on n'accepte pas de doubler les crédits.
Reportage d'Amélie Niard à Conakry en Guinée. Alors on voit bien que même dans l'informel, hein, il y a des règles assez strictes. D'abord, c'est fondé sur la confiance, donc le crédit est accordé à la tête du client, mais en fonction de la confiance qu'on investit ou pas. Il est nécessaire au business, sinon on n'arrive pas à vendre suffisamment. Et puis on peut pas doubler le crédit. Qu'en pensez-vous, Paul Jorion, de ce reportage?
Mais c'est très intéressant parce que ça nous montre que ce qui a été compris par tout le monde, c'est que le crédit à la consommation ne peut pas être conçu dans une logique d'intérêt. Le monsieur qui nous a parlé, qui était banquier à Brazzaville, bon, il fait son métier comme un autre, mais il nous a donné tous les exemples pour nous montrer pourquoi le crédit à la consommation devrait être tout à fait extrait d'une logique de crédit privé. D'abord parce qu'il y a les commissions, vous avez entendu, les commissions c'est évidemment pousse au crime, ça conduit à des catastrophes parce que ça conduit à prêter à des gens qui ne sont pas en situation de pouvoir rembourser. Et puis il nous a souligné aussi le fait que là, une logique d'intérêt sur du crédit de la consommation, ça ne fonctionne pas. C'est une erreur de raisonnement. Ça marche dans le cas où on produit quelque chose,
mais
on vous avance de l'argent.
Il y a toujours des taux d'intérêt quand même, sauf peut-être justement chez l'épicier du coin.
Eh bien justement, c'est ça. ça n'a rien à voir, l'épicier du coin dont on vient d'entendre parler et la logique des banques qui prêtent à intérêt. C'est une logique complètement différente. On ne devrait même pas les rapprocher. Ce sont deux problèmes distincts. Alors, le commerçant qui avance, ça existait dans les sociétés occidentales aussi, européennes, américaines, etc. Et c'est une logique tout à fait différente. C'est de permettre aux gens d'étaler leurs dépenses. Et c'est fondé sur la confiance. Mais il n'y a pas d'intérêts qui sont exigés. Introduire une logique d'intérêt dans le crédit à la consommation, c'est ça qui a conduit au désastre, c'est ça qui a produit le surendettement. En fait, prêter de l'argent dans le cadre du crédit à la consommation, c'est un service public. Ça ne devrait jamais être fait par un organisme privé.
Annick Bidan, ancien cadre de la Banque de France et aujourd'hui à l'association Crésus.
Je suis d'accord avec vous, monsieur, dans le monde parfait, ce serait très bien.
Mais c'est ça que nous essayons de créer, madame.
Je suis complètement d'accord avec vous, sauf que, de mon point de vue, on peut tout à fait accepter pour couvrir le coût de l'argent, puisque en fait les banquiers achètent quand même l'argent, ils ont quand même des coûts de structure. Concevoir des prêts, aujourd'hui l'argent vaut très très peu. Hein. Aujourd'hui, le taux de base en France, c'est 0,38. Donc concevoir d'emprunter de l'argent, parce que moins vous avez d'argent, plus vous avez besoin d'emprunter pour des biens de consommation minimum... puisqu'on en est quand même arrivé en France à copier les pays du Sud en mettant en place du microcrédit. Et donc, c'est quand même... c'est fou qu'on en soit arrivé là.
C'est-à-dire ?
Eh bien, en France, l'origine du microcrédit, c'est normalement, comme monsieur vient de le dire, pour créer une entreprise, créer de la richesse. Or, le problème, c'est que pour acheter une machine à laver, tout bêtement, prenons un exemple très concret, une personne qui n'a pas beaucoup d'argent et qui ne peut pas s'acheter une machine à laver va aller dans une laverie qui va lui coûter beaucoup plus cher que si elle peut rembourser un crédit. Le principe étant que ce qui n'est pas normal, c'est que cette personne ne puisse pas avoir accès à un crédit à 3-4% et doive le payer 21%. Voilà, c'est ça le problème. Mais je suis complètement d'accord que si un jour on pouvait arriver à avoir du crédit gratuit, mais il ne faut pas rêver là, je ne crois pas.
Mais si, il faut rêver, madame. Vous avez entendu sans doute les nouvelles. Aux nouvelles, on nous parle de tous ces pays qui essaient de créer quelque chose de nouveau. Alors, il faut s'attaquer à la source des problèmes. Il faut voir, vous le dites effectivement, le coût de financement des banques est peu élevé. Bon, la banque emprunte, je ne sais pas, 1,75 à 2%, etc. Pourquoi est-ce qu'elle prête alors à des gens qui sont pauvres? Pourquoi est-ce qu'elle prête à du 21%?
Alors, on a entendu
du 200%,
du 300%.
Je vais vous expliquer. Non, je vais vous expliquer tout de suite. Ça prend une seconde. C'est parce qu'il y a une prime de risque qui est ajoutée. Et plus il y a de risque que la somme ne sera pas remboursée, plus la prime de risque est élevée. Ce qui justifie ces sommes énormes qui vont être payées. C'est un problème social, c'est un problème de société. Les problèmes de société, il faut les régler au niveau collectif, pas laisser
et
à
au
des
niveau
banques,
de l'État, hein,
pas laisser ça
autres.
À des banques qui vont faire du 200 ou du 300%.
On va en reparler bien sûr. On est en ligne, il y a pas mal d'auditeurs là qui veulent absolument participer à l'émission. Je rappelle le numéro, c'est le 33 1 56 40 21 71. On est en ligne avec Arnaud au Bénin. Bonjour Arnaud.
Bonjour madame.
Arnaud, vous travaillez...
Bonjour monsieur Paul, monsieur... madame Annick, bonjour.
Bonjour.
Arnaud, vous travaillez dans le microcrédit, c'est ça?
Voilà.
Oui, alors expliquez-nous.
Voilà, je suis employé du partner au Bénin et j'y étais en qualité d'auditeur. Donc, j'avais comme responsabilité de retrouver... des clients qui avaient pris du crédit et qui n'arrivaient pas à rembourser. Donc là, on essayait de les retrouver et on discutait avec eux, on voyait avec eux comment faire en sorte que les sous reviennent. Donc c'était un problème qu'on avait eu en temps ici au Bénin, ce qui a emmené un nouveau directeur.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne remboursent pas les prêts qu'ils ont contractés en microcrédit?
Oui. Puisque moi, quand j'étais là, il y en avait assez. Il y en avait beaucoup qui ne remboursaient pas, qui n'avaient pas les moyens ou qui avaient pris le crédit et ne l'orientaient pas réellement dans une activité. Voilà.
Alors, qui est responsable finalement de cette faillite-là, selon vous? Les organismes de microcrédit, les consommateurs?
Voilà, les responsabilités sont à partager. Parce que d'abord, quand on obtient facilement le crédit quand on a un proche, quelqu'un qui facilite l'accès au crédit. Voilà, ça arrive que des gens ont cette facilité. Il y a aussi le fait que plus de clients bon, fait vivre l'entreprise.
Eh oui. Donc, de microcrédit.
Là, à ce niveau,
l'entreprise de oui, microcrédit. Oui, oui. On est bien d'accord.
Oui, oui, oui. Voilà. Donc, de ce côté, on n'étudiait pas bien les dossiers. Ou bon, avant, maintenant ça va. Il y a beaucoup d'études. On contrôle beaucoup plus qu'avant. Bon, mais au niveau des clients, en fait. Comme l'a dit M. Paul tout à l'heure, normalement, ces fonds, c'est pour l'entrepreneuriat et pour des activités entrepreneuriales. Mais
ça serait dans... Oui, mais ce n'est pas toujours le cas dans la réalité.
Non. Dans la réalité, on peut prendre du crédit pour des obsèques. Pour des obsèques. Pour investir dans la construction, dans l'immobilier. Et on peut prendre pour s'équiper, payer un moyen de déplacement ou
voyez, oui, acheter une voiture, etc.
Voilà.
Paul Jorion et Annick Bidan, vous souhaitez réagir à ce témoignage. Merci beaucoup, hein, Arnaud, pour votre appel à 7 milliards de voisins.
Oui, moi j'aimerais dire quelque chose parce que j'ai été impliqué au Bénin, c'était en 84 et 85, dans une des premières tentatives de faire du microcrédit dans le pays. C'était dans le cadre de notre projet de la FAO, un projet de pêcherie au Bénin. Et nous avions compris que si nous pouvions aider les pêcheurs et surtout les femmes de pêcheurs, les femmes du pêcheur qui séchaient le poisson et qui le vendaient fumé, il fallait que nous leur avancions des toutes petites sommes, de l'ordre de 2000 francs CFA de l'époque, pour acheter essentiellement le matériau qui leur permettait de sécher et de fumer le poisson. Essentiellement, vous savez, du grillage à poule qui permettait de faire les clés sur lesquelles on faisait fumer le poisson. Et ça faisait une différence. Une femme à qui nous faisions cette avance de petites sommes pouvait immédiatement demander à une nièce ou à une petite fille de venir aider dans le commerce. Et du coup, l'entreprise prenait une taille différente de manière quasiment immédiate.
Annick Bidan, alors ceci dit, on est quand même dans deux situations un peu différentes. Le surendettement des ménages, c'est donc pour dans l'ordre de sa vie privée, c'est pas tout à fait la même chose que le surendettement quand on s'est endetté pour une activité professionnelle.
Oui,
tout à fait. Ce sont des mécanismes différents et on en sort différemment aussi de ce surendettement ?
Ah, complètement, puisque en fait, Monsieur Chorion a raison, le principe du microcrédit professionnel, c'est pour essayer de créer de la richesse. Le problème de l'endettement des particuliers, notamment en France, ça n'est pas fait pour... Enfin, c'est fait indirectement pour créer de la richesse puisque vous allez consommer. Et donc, c'est toute une chaîne de consommation. C'est bien pour ça qu'on ne souhaite pas freiner l'endettement en France. On l'y encouragerait plutôt.
Bien sûr.
C'est vrai que dans le cas de l'entrepreneuriat, quand on avance la somme, une richesse va être créée qui va permettre non seulement de rembourser la somme, mais de payer les intérêts sans trop de difficultés. Tandis que dans le cas du crédit à la consommation, surtout dans les cas les plus tragiques, c'est un salaire à venir qui est hypothéqué à l'avance et qui devra servir. Voilà. Ça ne fait qu'aggraver le problème.
Alors revenons donc sur ce crédit à la consommation, sur le surendettement des ménages. On est en ligne avec Renaud à Cotonou. Bonjour Renaud. Bienvenue chez les voisins. Et je crois que vous voulez questionner nos invités.
Oui, tout à fait.
On vous écoute, Renaud.
D'accord. Donc moi, en fait, j'ai pris un crédit avec une banque pendant que j'étais employé dans une entreprise. Et voilà, j'ai perdu mon emploi avant de pouvoir finir de solder mon crédit. Voilà, donc ensuite, ça a été chez un huissier. J'ai reçu un courrier de la banque. Mmh. C'est comme ça que j'ai su que c'était chez l'huissier. Et là, il s'est écoulé 2-3 ans, j'en avais pas les moyens, donc j'ai pas réagi.
Donc pendant 2-3 ans, vous avez arrêté de rembourser ?
Tout à fait. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir revenir vers la banque, donc pour voir quelles sont les possibilités donc, de pouvoir solder mon crédit. Donc là, j'aimerais savoir à peu près comment m'y prendre, si je dois aller à la banque ou si je dois aller chez l'huissier, et si éventuellement ce sera toujours le même montant qui avait été bouclé avec le courrier que j'avais reçu.
En gros, vous avez envie de rembourser, enfin de commencer à rembourser et de vous réconcilier avec votre banquier.
Tout à fait.
Annick Bidan.
Écoutez, c'est difficile de vous donner des conseils à partir du moment où vous sonnez pas une banque française, donc qui n'est pas régie par la loi française. Pour autant, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que de toute façon... ça me paraît peut-être... Je ne pense pas que la somme qui avait été arrêtée quand vous avez arrêté de payer est la même qu'aujourd'hui, malheureusement, parce que je pense qu'il doit y avoir des intérêts de retard. Par contre, je vous conseille d'écrire au contentieux et de proposer une petite somme pour essayer d'enclencher un remboursement. Mais il est difficile pour moi de vous donner des conseils précis. Il faudrait mieux vous rapprocher de, vous devez avoir des institutions locales qui doivent permettre de
alors,
vous aider.
Justement, est-ce qu'il y a des associations au Bénin qui peuvent aider les gens surendettés à reprendre pied avec les remboursements sans être complètement étranglés par des taux d'intérêt qui continuent de courir, etc., etc. Renaud? Allô,
oui,
Renaud?
Oui.
Oui, vous nous entendez? Oui. Est-ce qu'il y a des associations au Bénin qui peuvent aider les consommateurs pour leur éviter d'être étranglés par le surendettement?
Mais justement, j'en ai pas l'information. Enfin, on est très peu informés par rapport à ça ici. Donc, j'en ai pas l'information.
Oui.
Je sais pas si ça existe.
Annick Bidan, ceci dit, en France, bon, il y a Crésus, mais je veux dire que dans des pays européens, le soutien accordé aux ménages qui sont surendettés n'est pas toujours suffisant non plus.
Ah non, il n'y a que, enfin, en Europe, il n'y a que la Belgique et la France qui ont mis en place une commission de surendettement, même si ça s'appelle pas tout à fait comme ça en Belgique. Dans les autres pays, en fait, c'est plutôt directement avec les banquiers, les sociétés de crédit que la négociation se fait, quoi.
Merci pour ces questions, Renaud. Bon courage hein, pour reprendre pied et reprendre des relations normales avec votre banquier. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 33 1 56 40 21 71. Alors, j'aimerais qu'on reparle quand même du microcrédit, Paul Jorion, parce que pendant longtemps, on a dit mais le microcrédit, c'est formidable, ça permet de donner un nouveau souffle à l'économie dans les pays en développement. Et là, contrairement à ce qu'on pense, les pauvres remboursent très bien, si ce n'est mieux. Et là, finalement, on s'aperçoit que c'est pas si simple.
Mais il y a deux cas. Il y a le cas qu'on peut distinguer effectivement avec les deux mots endettement et surendettement. Bon, si c'est endettement effectivement pour créer une entreprise ou pour aider une petite entreprise qui démarre, etc., on va effectivement créer la richesse qui permettra de faire le remboursement. Mais si on est dans une situation qui est au-delà de cela, c'est si la personne va utiliser l'argent qui lui est prêté simplement pour survivre, à ce moment-là, on se trouve dans une spirale infernale, bien sûr, et la personne sera endettée à vie. On aura du revolving, etc. Et comme on le sait, sur ces petites sommes, ne serait-ce que parce qu'il y a des frais, il y a des frais qui sont incompressibles sur un prêt. Il faut créer le dossier et ainsi de suite. Les commissions qui vont être perçues seront des sommes énormes par rapport aux sommes qui sont finalement perçues. Donc, il faut distinguer deux cas. On aide quelqu'un à démarrer son entreprise, à créer de la richesse, ou on aide simplement une personne à survivre. Dans le cas où on aide simplement une personne à survivre, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un problème de société. C'est pas aux banques à essayer de résoudre ça. C'est pas leur problème et elles ne résoudront pas ces problèmes-là. Ce sont des problèmes généraux.
Moi, je compléterai un tout petit peu, parce que même quand il y a de le microcrédit professionnel, il y a un déficit d'accompagnement. Quelqu'un qui peut être un très bon artisan n'aura pas forcément des compétences ni comptables ni de gestion. Or, on s'aperçoit qu'en France, notamment, beaucoup de petites entreprises d'artisans n'arrivent pas à rembourser et à durer. Uniquement parce qu'ils ont ce déficit d'éducation.
Et alors, pour ce qui concerne les ménages, comment vous les accompagnez pour tenter de les aider à sortir du surendettement en France dans le réseau d'associations Crésus, Annick Bidan?
Alors, on étudie chaque situation, puisqu'il y a quand même des situations d'endettement qui peuvent être réduites sans avoir accès à la commission de surendettement. Sinon,
c'est-à-dire,
on les aide.
Dans ces cas-là,
eh bien, il peut y avoir des restructurations de dettes, des transformations.
Un règlement à l'amiable.
Voilà, exactement. Un règlement à l'amiable, un regroupement de crédits. Mais tout ça ne peut pas se faire si la personne n'a pas pris conscience du principe d'établir un budget pour savoir exactement quel est son reste à vivre une fois qu'elle a payé tous ses engagements.
Alors, il existe des cas complètement désespérés où l'on sait que ces personnes ne pourront jamais rembourser l'argent qu'elles doivent, hein, que ce soit aux banques ou aux commerçants, aux sociétés de crédit. Que se passe-t-il dans ces cas-là?
Eh bien, grâce à la commission de surendettement, les dettes peuvent être totalement effacées avec une interdiction de prêt de 5 ans.
Et ce chiffre, enfin ce nombre de personnes qui sont en situation totalement insolvable, on va dire, augmente.
Oui, puisque aujourd'hui, il y a à peu près 220 000 dossiers déposés devant la commission de surendettement et 25% de personnes dont les dettes sont totalement effacées, ce qui n'était que de 4-5% il y a 5 ans.
Que faudrait-il faire pour qu'il y ait moins de gens surendettés, moins de pauvreté, où il pourrait y avoir des solutions mises en place par l'État? Je sais que vous réclamez notamment la fameuse mise en place du fichier national des crédits qui existe au Congo-Brazzaville, puisque notre ami Joseph nous en parlait en tant que banquier.
Qui existe partout, sauf en France.
Hein, qui existe en Allemagne, en Italie, en Espagne.
Quasiment dans tous les pays européens, selon certaines formes. Et nous, on aimerait bien se rapprocher de celui qui existe en Belgique.
Ça permet de ne pas cumuler plein de crédits. Hein,
voilà, c'est exactement ce que le banquier de Brazzaville a expliqué. C'est-à-dire, avant de prêter, le banquier ou la société de crédit aura une connaissance exhaustive de la situation d'encours de crédit que la personne a déjà pu contracter.
On est en ligne avec une auditrice à Brazzaville. Bonjour, bonjour Bellevie.
Excusez-moi, juste un rectificatif. C'est pas une auditrice.
J'avais bien reconnu. Excusez-moi. Bellevie, on vous écoute. Vous êtes en ligne chez 7 milliards de voisins. On est ravis de vous accueillir.
Merci beaucoup. En fait, j'aimerais apporter ma modique contribution. On n'a pas la même réalité. Donc, le surendettement en France ne s'analyse pas dans les mêmes termes que dans mon pays. D'abord, dans votre pays, il y a près de 70 à 80% des personnes qui ont un compte en banque. Chez moi, c'est moins de 10%.
Donc, comme dans tout le reste du continent. Comme d'ailleurs dans tout le reste du continent. C'est pas propre au Congo-Brazzaville.
D'accord, mais permettez-moi que je parle du Congo,
bien sûr, bien
parce
sûr.
Que c'est la situation que je maîtrise. Oui, je disais que dans mon pays, lorsque les gens ont des difficultés, on s'adresse souvent à des institutions qui évoluent dans l'informel. Donc ce sont des personnes physiques qui vous prêtent de l'argent, mais avec un taux d'intérêt de 30%. C'est-à-dire si vous prenez 100 000 francs, à la fin du mois, vous devez restituer 130 000 francs. Et étant donné malheureusement que les rémunérations mensuelles que reçoivent les fonctionnaires congolais laissent à désirer, c'est pas toujours facile d'y faire face. Donc les gens sont obligés d'aller emprunter chez X pour aller rembourser chez Y. Donc c'est une forme de surendettement, mais à l'africaine.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est une forme classique de surendettement.
En France, monsieur, bonjour. En fait, c'est exactement la même chose, puisque en fait, la plupart des personnes surendettées vont emprunter chez Y pour rembourser X et ainsi de suite. Alors, c'est pas dans les mêmes volumes, mais le problème reste entier.
Mais est-ce que les gens se rendent bien compte qu'au final, ils dépensent beaucoup plus d'argent quand même? Parce que je sais pas.
Le choix, hein.
Oui,
pas
Paul
le choix.
Jorion.
Oui, c'est ça.
Non, ces gens-là n'ont pas le choix. Il y a une solution qui est une solution en amont et dont on reparle un petit peu, c'est d'augmenter les salaires. Mais si vous voyez les choses qui sont discutées en ce moment même au niveau européen, on veut désindexer les salaires dans les pays où ils sont indexés et on veut trouver d'autres moyens de faire baisser les salaires. On est en train de prendre le moyen de prendre les pires décisions qui vont encore rendre les choses encore plus difficiles. La plupart des gens qui sont dans du surendettement n'ont pas d'autre choix que de rouler la dette d'un mois au suivant. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt qu'on leur impose, ce sont des taux qui visent simplement à les maintenir à l'intérieur de ce système.
Vous avez raison, mais en fait, le principe, c'est que surtout, les personnes espèrent toujours pouvoir éviter de déposer un dossier de surendettement, donc pensent toujours que leur situation va s'améliorer. Et ça me fait penser à un premier auditeur qui avait dit « Comment sortir du désendettement, c'est jouer au loto ?» Je ne conseille à personne de jouer parce qu'aujourd'hui, on voit fleurir de plus en plus de personnes dans des situations dramatiques à cause du jeu, et notamment en France, de l'ouverture des fameux tables de poker ou d'ainsi de suite. Et je peux vous dire que ça fait des sommes et ça fera des dégâts largement plus importants que la distribution du crédit dans n'importe quelle condition.
Mais le raisonnement n'est pas mauvais. C'est vrai que pour certaines personnes, la seule possibilité pour elles, c'est... Moi, je voyais ça aux États-Unis. On parlait tout à l'heure, je voyais ça à Santa Monica. Je voyais les mendiants le matin avec l'argent qu'ils avaient calculé, combien il leur fallait pour la journée. Ce qui restait, ils allaient acheter des tickets de loterie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient raison, c'était pour eux la seule façon de sortir de la vie qu'ils avaient. Évidemment, il ne faut pas encourager gens à le faire, il ne faut pas les encourager. Mais c'est vrai qu'à un point de vue objectif, quand on est dans le désespoir, dans une situation de désespoir absolu, il n'y a pas 36 moyens d'en sortir. Il faut un saut qualitatif.
Mais est-ce que tous les deux, vous êtes d'accord pour dire que les États doivent davantage réglementer l'accès au crédit, avec en même temps le risque que déjà c'est difficile d'avoir accès au crédit quand on veut monter son entreprise, qu'évidemment du coup, ça ne favorise pas forcément l'économie. Mais est-ce qu'il faudrait davantage dire non, attention, vous ne pouvez pas vous endetter pour acheter une voiture parce que vous ne pourrez pas rembourser, etc. Ou est-ce que c'est mauvais, ça?
Moi, je suis pour un encadrement beaucoup plus de l'État, notamment parce qu'aujourd'hui, alors je prends toujours l'exemple de la France parce que c'est le seul que je connais, mais en fait, maintenant, en France, vous ne pouvez plus vous passer d'un compte. C'est la différence avec l'Afrique.
Mais par exemple, les supermarchés qui accordent des cartes de crédit avec des taux d'intérêt à 20%, est-ce que ça devrait être autorisé? C'est légal, hein, on est bien d'accord.
Bien sûr que non, mais... ça ne devrait pas être autorisé. Mais si les personnes ne payaient pas avec leur carte, le chercheur a tout à fait raison. Quand il, en fait, le problème, c'est les personnes iraient acheter leur argent à côté, ils ne paieraient pas directement avec la carte. Le problème resterait le même. C'est bien le niveau de revenu en France, en tous les cas, et l'importance des charges. Il a tout à fait raison, monsieur. Mais le problème, c'est aussi la précarité dans l'emploi. Moi, je vois se multiplier les temps partiels subis. Donc, comment voulez-vous vivre avec 700 euros de revenus quand vous avez des loyers qui les dépassent largement ?
On est bien d'accord qu'on n'est plus là dans une spirale de consommation, mais dans une spirale de survie. C'est ce que vous décrivez, Annie Bidan.
Complètement, complètement.
Paul Jorion ?
Oui, il faut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut absolument sortir cette question du crédit à la consommation. Il faut le sortir d'une logique marchande qui ne fait qu'enfoncer les gens davantage, même avec de la réglementation. Ce sont des problèmes de société. Le fait que la masse salariale a baissé depuis 1964, c'est un problème de société. Ça doit être adressé, on doit s'adresser à cette question au plus haut niveau.
Et on est loin d'avoir pris les leçons de la crise de 2008, puisqu'en Grande-Bretagne, je viens d'apprendre qu'une étude d'Eurostat de ce mois-ci montre que les Britanniques continuent de vivre largement au-dessus de leurs moyens. Comment est-ce possible avec la crise? La confiance n'est pas tout à fait ébranlée.
Le commerce de luxe ne se porte mieux qu'il se portait en 2008.
Évidemment.
Parce que la concentration a continué de se produire.
On en a d'ailleurs parlé il n'y a pas longtemps dans l'émission 7 milliards de voisins. Merci à tous les deux et merci à tous pour vos appels. Annick Bidan, vous représentez l'association Crésus qui vient en aide aux ménages surendettés. Et Paul Jorion, votre dernier ouvrage paru en 2010, c'était Le Prix aux éditions du Croquant. Et vous préparez un livre pour le mois de mars, prochain?
Ça sort dans le 16 mars, c'est un livre qui s'appelle Le capitalisme à l'agonie, ça sort chez Fayard.
Oui, et ben ça promet d'être assez polémique également. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons de la recherche d'emploi. Une vraie galère aussi, racontée entre autres par une ex-employée du Pôle emploi en France. Bien sûr, vous pouvez participer comme tous les jours, 33 1 56 40 21 71.